Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
À travers le courrier, certains de nos auditeurs nous ont posé des questions sur la prière.
C'est pourquoi, durant cette série que nous continuons aujourd'hui, nous abordons ce sujet en profondeur.
En compagnie de Robert, pendant la première partie de ces émissions, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées sur la prière.
Puis lors de la deuxième partie de ces émissions, notre invité Jean-Philippe nous parle d'exemples de prières trouvées dans la Bible.
Bonjour Robert et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons aborder la question suivante. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas toutes nos prières? La dernière fois, nous avons appris que si nous nous obstinons à pratiquer le péché, Dieu alors se réserve le droit de ne pas nous écouter lorsque nous nous adressons à lui.
C'est exact, Yann. Mais j'ai aussi ajouté que ce n'est pas l'unique raison pour laquelle Dieu peut ne pas exaucer certaines de nos prières. Et nous allons d'ailleurs aborder les autres raisons aujourd'hui. Car si nos prières ne sont pas toutes exaucées, ce n'est pas forcément à cause d'un péché. Tant de personnes justes et bonnes vivent en communion avec Dieu, et pourtant, parfois leurs prières ne sont pas exaucées.
Alors, pourquoi ?
Lisons, avant d'aborder ces diverses raisons, les paroles de Jésus trouvées dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11.
Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent?
Ces paroles parlent de la confiance que nous pouvons trouver auprès de Dieu. Car tout comme un bon père, il offre de bonnes choses à ses enfants. De plus, nous pouvons lui demander toutes ces bonnes choses, sachant qu'il nous écoute et veut nous exaucer.
Mais Robin, nous parlons du fait que Dieu ne nous accorde pas toujours ce que nous lui demandons.
En effet, et probablement parce que nous ne lui demandons pas toujours ce qui est bon. Si un bon père sait donner de bonnes choses à ses enfants quand ceux-ci les lui demandent, il sait aussi leur refuser celles qui sont mauvaises. Car parfois, les enfants, ne sachant pas toujours ce qui va contribuer à leur bien, se trompent dans leurs requêtes. Il en est de même sur le plan spirituel. Nous pouvons adresser à Dieu des demandes que nous croyons être bonnes, mais le Seigneur, qui connaît mieux que quiconque notre véritable intérêt, peut nous les refuser, sachant qu'en réalité, elles ne contribueraient pas forcément à notre bien. Ou peut-être encore, a-t-il en vue pour nous quelque chose de meilleur ? Un père, par exemple, ne donnera jamais à son enfant un caillou au lieu de pain. Le caillou représente ce qui est inutile, alors que le pain symbolise la nourriture spirituelle. Dieu ne nous exaucera pas si nous lui demandons ce qui est vain, ce qui ne sert à rien. Un père ne donnera pas non plus un serpent au lieu d'un poisson à son enfant. Une fois de plus, le poisson nourrit. Le serpent, quant à lui, représente, selon la culture juive, tout ce qui est impur et dangereux. C'est le serpent qui a éloigné Adam et Ève de Dieu. C'est le serpent qui les a incités à désobéir à Dieu. Dieu ne nous exaucera pas si nous venons à lui avec des requêtes qui risquent de nous éloigner de lui. Des requêtes qui représentent pour nous un danger spirituel. Des requêtes qui pourraient inciter notre désobéissance.
Merci Robert, mais ce n'est pas toujours évident de discerner avec certitude, quelles sont les requêtes qui vont servir au mieux nos intérêts spirituels?
Oui, c'est exact. Et ce discernement s'acquiert tout au long de notre croissance spirituelle. Car tout comme un parent, à travers l'éducation de son enfant, le prépare à l'âge adulte, Dieu, notre Père Céleste, désire nous conduire vers une bonne maturité spirituelle. C'est en apprenant toujours plus de Dieu, de sa parole et de la vie spirituelle de nos frères et sœurs en Christ, que nos prières s'accorderont toujours davantage avec ce que Dieu désire pour nous. En fait, par la prière, nous nous plions à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons ni ne devons exiger à Dieu notre volonté. Parfois, il est vrai, nous pouvons penser que telle ou telle chose ne peut être que bénéfique pour nous. Mais Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait comment nous protéger des diverses tentations et dangers.
Mais des fois, nous présentons à Dieu des requêtes qui nous semblent fort importantes et essentielles, comme par exemple la conversion d'un proche ou bien la guérison d'une personne malade, ou encore son intervention pour résoudre des problèmes graves n'engendrant que souffrance. Et pourtant, Dieu semble ne pas nous exaucer.
Oui, nous aborderons cette question troublante la prochaine fois. Nous pouvons cependant dire aujourd'hui que la volonté de Dieu ne correspond pas toujours à la nôtre. Cependant, toute souffrance, toute épreuve, lorsque nous la remettons entre les mains de Dieu, ne peut que contribuer à notre croissance spirituelle. Mais comme je l'ai déjà dit, nous parlerons plus en profondeur de ce sujet lors de notre prochaine émission.
Merci Robin et à bientôt.
Merci et au revoir à tous.
Merci Robert. Comme nous l'avons déjà annoncé, lors de la deuxième partie de ces émissions, nous parlerons des différents types de prières rencontrées dans la Bible.
Et sans tarder davantage, je souhaite la bienvenue à Jean-Philippe, qui nous accompagnera tout au long de cette série. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des prières d'imprécation. Les psaumes en renferment d'ailleurs un grand nombre.
Le mot « imprécation » n'est pas forcément connu de tous. Dites-nous ce qu'il signifie.
Ceux qui ont recours aux prières d'imprécation implorent Dieu de déverser sa colère ou sa malédiction sur leurs ennemis.
C'est assez étonnant.
Ces prières, en effet, laissent certains perplexes, voire même troublés. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons les aborder aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, nous allons écouter l'extrait de l'une d'elles dans le psaume 69, les versets 19 à 28.
Approche-toi de moi, viens me sauver la vie, oui, viens me libérer, car j'ai des ennemis. Toi, tu connais ma honte, tu sais que l'on m'insulte, qu'on se moque de moi. Ils sont là, devant toi, tous mes persécuteurs. Leurs outrages m'atteignent, ils m'ont brisé le cœur, je ne m'en remets pas. Que leurs banquets deviennent un piège devant eux, que leur prospérité soit comme un traquenard, que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir. Fais-leur courber le dos continuellement, que ton indignation se déverse sur eux, que ta colère ardente les atteigne, que les lieux où ils campent soient dévastés, que leur demeure soit privée d'habitants. Ils se sont acharnés sur celui que tu as frappé. Ils se sont répandus en commérage sur les malheurs de ceux que tu avais blessés. Charge-les donc de tous leurs crimes, et ne les traite pas comme des innocents.
Je comprends que de telles prières puissent surprendre et inquiéter, mais que devons-nous en apprendre?
D'abord, les paroles de ces prières reflètent avec honnêteté toute la douleur, toute la détresse, la colère de celui qui les exprime, en l'occurrence ici le roi David. En effet, quel privilège de pouvoir s'approcher de Dieu et de tout lui exprimer, tout lui dire. Ne lui cachons pas nos véritables sentiments, ni les émotions qui nous animent, car le Seigneur les connaît. Il sait tout ce qui se tient caché dans notre cœur. Les paroles de ce psaume sont assez virulentes, c'est vrai. Mais cette violence ne fait qu'exprimer la douleur qui accable le psalmiste. Tout le chagrin qui l'envahit à cause de ceux qui se sont acharnés contre lui. Ensuite, ces prières dépeignent la triste et tragique réalité du monde dans lequel nous sommes plongés, la souffrance qui s'y trouve. Car nous pouvons être victimes d'actes malveillants à cause d'ennemis, subir leurs menaces, leurs violences, toutes sortes de trahisons, leurs mensonges et ainsi de suite. Tous ces événements sont fort difficiles à vivre, mais le psalmiste nous montre que nous pouvons en parler à Dieu. D'autre part, ces prières reconnaissent aussi que les ennemis du croyant sont en fait les ennemis de Dieu. C'est pourquoi ces prières implorent sa justice. Dieu a en horreur la violence. Il a en aversion toute parole ou acte destiné à détruire une autre personne. Ces paroles du psalmiste sont vives et percutantes, il est vrai. Mais en fait, elles ne font que supplier Dieu d'envoyer sa justice. Les actes de ses ennemis sont condamnables. Alors le psalmiste demande que justice soit faite. Il demande que les ennemis de Dieu soient livrés aux conséquences de leurs agissements.
Et avons-nous le droit de formuler de telles prières aujourd'hui?
Nous avons le droit d'exprimer à Dieu tous nos sentiments, tels que la douleur ou la colère. Nous avons le droit d'implorer sa justice, de le supplier d'agir en notre faveur. Toutefois, l'enseignement de Jésus nous encourage à réorienter nos prières différemment. Et c'est probablement pour cette raison que certains chrétiens sont troublés par les prières d'imprécation telles que celles trouvées dans les psaumes.
Rappelez-nous alors l'enseignement de Jésus.
Jésus nous exhorte à aimer nos ennemis. Quel défi incroyable! Puis il ajoute en Luc chapitre 6 verset 27 « Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. »
Ainsi, Jésus nous encourage à vouloir le bien de nos ennemis plutôt que de leur souhaiter du mal.
Oui, autrement dit, Jésus nous exhorte à implorer la miséricorde de Dieu envers nos ennemis plutôt que sa justice.
Voilà une différence radicale.
C'est exact. Mais en fait, la meilleure chose que nous puissions souhaiter à notre ennemi est que son cœur s'ouvre à Jésus, que ses yeux voient sa justice et sa miséricorde, sa gloire et sa grâce. Ce Seigneur qui désire sauver tout homme, toute femme. Alors nos ennemis, en rencontrant Jésus et en mettant leur foi en lui, changeront de comportement. Et peut-être deviendront-ils nos amis, nos frères et sœurs en Christ. C'est à cela que nous devons travailler en priant pour nos ennemis.
Et Jésus nous montre l'exemple à suivre, car sur la croix, alors qu'il subissait la violence de la foule haineuse et méprisante, il a prié « Père, pardonne-leur ».
Merci Ian pour cette remarque pertinente. Pour conclure, je voudrais affirmer à nos amis auditeurs qui souffrent à cause de la cruauté d'ennemis que Dieu voit votre peine. Il comprend votre souffrance. Et soyez-en assurés, Dieu est juste. Le jour viendra où il exercera sa justice, où il relèvera celui qui espère en lui, où il consolera celui qui subit l'injustice. Toutefois, en attendant ce jour glorieux, nous sommes appelés par nos prières à bénir nos ennemis, à prier pour que la grâce de Dieu et sa miséricorde les accompagnent, car l'amour de Dieu seul peut transformer les cœurs et le monde.
Merci Jean-Philippe pour ces sujets de réflexion. Alors, au revoir et à la prochaine.
Au revoir Yann et au revoir à tous.
Nos deux séries sur la prière se poursuivront la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.